il y a bien des fois où je voudrais remettre de l'ordre dans ce monde, particulièrement en ce moment. Alors quand on entend le mot révolution, on se dit ben c'est quelqu'un qui va prendre les armes, qui va aller avec violence, qui va retourner l'ordre établi, qui va renverser le système politique ou social avec violence. Et l'histoire juive est parcourue de révoltes violentes, notamment celle des Maccabées quand ils se sont révoltés contre l'occupation grecque. Puis ensuite leurs héritiers, les Zélotes, qu'ils se sont révoltés contre le pouvoir des Romains, des religieux qui collaboraient ensemble. Et puis encore bien d'autres, il y a eu bien des révoltes dans cette histoire juive. Durant des siècles, les chefs religieux ont ajouté à la loi divine, à la loi de Moïse, règle sur règle, mettant un joug, un poids sur le peuple. Un joug que eux-mêmes n'étaient pas capables de respecter. Est-ce que parfois ça vous fait pas penser un peu à l'actualité? Jésus, durant son passage sur terre, s'est révolté. Il s'est révolté parfois avec violence verbale, une violence sans pareil, pour dénoncer l'hypocrisie, le légalisme et le manque de compassion. Souvenez-vous lorsqu'il a chassé les marchands du temple, où il a traité aussi les pharisiens et les docteurs de la loi de race de vipères, de guides d'aveugles, de sépulcres blanchis. C'est pas vraiment des qualificatifs sympathiques. Alors Jésus était-il un révolutionnaire? Pas dans le sens du terme avec violence ou avec les armes, mais il a bel et bien révolutionné le monde, non par la force, mais par l'amour, la vérité et la justice. Je m'appuyais sur un texte de Ésaïe 61.1 qui a été repris dans Luc 4, 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Alors, premier point, oui, Jésus a bouleversé les normes religieuses de son temps. Les religieux de cette époque étaient attachés à la loi, aux traditions et aux rites. Mais Jésus en avait assez de ce théâtre de faux-semblants. D'après la loi, le sabbat est un jour où on ne travaille pas. Mais les pharisiens en ont ajouté une règle supplémentaire en interdisant de guérir ce jour-là parce qu'ils pensaient que la guérison était un travail. En réponse à cela, Jésus a accompli 7 guérisons le jour du sabbat. Jésus a guéri l'homme à la main paralysée. Il a chassé un démon d'un enfant. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri le paralysé de Bethsaida. Il a guéri la femme courbée, guéri l'homme rempli d'œdème. Il a guéri l'aveugle né. Tout cela, souvent sous leur nez, pour les provoquer, pour les faire réfléchir, pour les faire réagir. Mais il en est resté dépité, pleurant souvent de les voir obstinés. À plusieurs reprises, il criera « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte. » Oui, Jésus a bouleversé l'ordre religieux de son temps parce qu'il voulait pardonner les péchés, ce que, d'après les chefs religieux, seul Dieu pouvait faire. Mais souvenez-vous de l'homme qui est descendu du toit sur sa natte. Il lui a dit, qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner les péchés ou te dire, lève-toi, prends ta natte et marche? Il a pardonné les péchés. Il parlait à des pécheurs, des femmes, des lépreux, des étrangers, ce qui était violemment condamnable à l'époque, souvent par lapidation. Il condamnait l'hypocrisie religieuse parce que les religieux avaient sur leur front et sur leurs bras des flictaines, des téléphiles, les petites boîtes qui leur rappelaient les paroles. Ils aimaient être appelés maîtres et avoir la première place. il les condamnait. Jésus affirme qu'il ne suffit pas d'ancrer sa pratique religieuse par des gestes ritualisés, quotidiens, comme l'estiment les pharisiens, mais qu'il faut aller plus loin. Jésus nous dit, ne faites pas les choses par habitude, par tradition, allez plus loin. Jésus voulait changer nos cœurs, nos valeurs, notre imaginaire. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Je suis venu l'accomplir en lui donnant son vrai sens. Mais quel est ce vrai sens en fait? Est-ce que parfois vous êtes posé cette question? Quel est ce vrai sens? Moi, je me la suis posée. Ce vrai sens, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il dira à ses disciples avant de partir, et il dira aux pharisiens pour leur fermer la bouche, que tout se résume en deux commandements. Le premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le vrai sens de la croix. La croix a une barre verticale qui va du ciel jusqu'à la terre, l'amour de Dieu qui descend jusqu'à nous et nous devons l'aimer en retour. Et la croix a une barre transversale qui touche les extrémités de la terre, l'amour du prochain. Toute la loi de Moïse se résume en ces deux commandements. Le point numéro 2, Jésus a bouleversé l'ordre social. Il a bouleversé dans un monde dominé par les puissants. Jésus a élevé les pauvres en esprit. Venez à moi, vous qui êtes pauvres en esprit, car le royaume de Dieu vous appartient. Il a élevé les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il nous demande de croire comme des petits-enfants. Il a élevé les femmes méprisées, la samaritaine ou la femme adultère. Il a élevé les étrangers, le bon samaritain, laissé sur le bas-côté. Il a élevé les derniers, car il a dit « les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Oui, Jésus a renversé la logique du pouvoir. Il a dit « je ne suis pas venu pour servir ». Pour être servi, pardon, excusez-moi, mais pour servir. Il s'est fait le plus petit d'entre nous, pour servir. Alors Jésus, point numéro 3, a instauré une révolution du cœur. Jésus n'est pas venu pour changer un système politique ou social, mais pour transformer nos cœurs. Est-ce une révolution? C'est une révolution et la plus difficile, je peux vous l'affirmer. Parce que c'est une révolution intérieure, parce que quand vous avez fait des choses par habitude, par tradition, pendant des années, il vous faut l'aide de Dieu pour pouvoir changer votre façon de voir, votre façon de penser et votre façon d'agir. Jésus a instauré la révolution du cœur en disant « bénissez vos amis, vos proches », mais il a ajouté « aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent. Qui a eu cette facilité de bénir ses ennemis? Pas moi. C'est pas facile. Il a dit, heureux les miséricordieux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon avec eux. Il a dit aussi, ce n'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme qui est bien, mais ce qui sort de son cœur. Parce que ce que vous avez accumulé dans votre cœur, même quand ça ne va pas, c'est ce qui sort de votre bouche. Ayez toujours des paroles qui bénissent les autres. Et il a dit aussi, pardonnez 70 fois 7 fois. C'est-à-dire pardonnez à l'infini. Ça aussi, c'est une révolution intérieure, non? Pardonnez. Pardonnez à l'infini. Jésus nous appelle à une transformation profonde. À naître de nouveau, c'est la véritable naissance, nouvelle naissance, la transformation intérieure, la transformation du cœur. Le point numéro 4, Jésus a posé les bases du royaume nouveau. Il parlait toujours du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu viendra. Là aussi, est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais de quoi il parle quand il parle du royaume de Dieu? Moi, je me la suis posée aussi. En fait, le royaume de Dieu, c'est agir sans violence. C'est refuser l'injustice. C'est faire régner la paix, la vérité sur cette terre. Pas que, mais entre autres. Et c'est la tâche la plus difficile. Mais si nous, les chrétiens, on ne s'y attache pas, qui le fera? Qui fera que ce monde soit sans violence autour de nous? Qui fera que ce monde soit dans la justice? Qui fera régner la paix? Si nous, en premier, nous ne le faisons pas. Alors le royaume de Dieu commence dans le cœur des hommes. Et Jésus en est le roi serviteur. Jésus qui a donné sa vie pour les autres. Son triomphe est notre victoire. Frères et sœurs, aspirons à être le canal par lequel Dieu se manifeste. Et le royaume s'approchera de nous. Le royaume est déjà en nous, mais s'approchera davantage. Aspirons à être ce canal. Alors Jésus était-il un révolutionnaire? Oui. Mais pas comme les hommes l'entendent. Car Jésus a révolutionné le monde, non par l'épée, mais par la croix. Jésus a révolutionné le monde en vainquant le mal par le bien, la haine par l'amour, la mort par la résurrection. Oui, Jésus est le plus grand des révolutionnaires, car il a changé le monde sans verser le sang des autres, mais en versant le sien. Et il a tellement révolutionné le monde que son message est encore d'actualité aujourd'hui, après 2000 ans. Après plus de 2000 ans, son message reste d'actualité. Le message de l'amour. Car sans amour, nous ne sommes rien. Les êtres humains ont besoin de cet amour. De plus en plus, on s'aperçoit que les enfants ont des troubles comportementaux incroyables, ont des maladies psychiatriques grandissantes. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont laissés seuls devant des jeux vidéo, des ordinateurs. Ils n'ont plus l'amour, l'intimité avec leurs parents. Ils n'ont plus non plus les bases, les contraintes, le cadre dont ils ont besoin pour se construire. Ils n'ont plus le véritable amour. L'amour est remplacé par des intelligences artificielles, des réseaux sociaux, des ordinateurs, et ça les déconstruit. Nous avons besoin de cet amour, l'amour de Dieu, qui va pénétrer dans la profondeur du cœur des parents pour le transmettre dans la profondeur des enfants. Transmettons cet amour. Dieu prône un rapport direct avec Dieu, sans médiation, sans intermédiaire. Oui, Jésus est le plus grand des révolutionnaires, car il a changé le monde. Et il continuera à le changer. Et il a besoin aussi de nous pour transmettre ce message de l'amour. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez envie que cette révolution continue à travers vous? Est-ce que vous avez envie que cette révolution continue à transformer vos cœurs, mon cœur? Demandons-lui aujourd'hui de nous aider à changer notre façon de penser, notre façon d'agir. Accueillons-le comme le roi, le seigneur de nos vies, pour qu'il en soit le seul maître. Et pendant, on m'a demandé pas de faire long, donc j'ai pas fait long, et pendant que un chant va passer, j'aimerais qu'on puisse vraiment méditer sur ces paroles. Est-ce que je suis? Est-ce que je suis l'intermédiaire que Jésus attend de moi pour transmettre l'amour qu'il m'a donné? L'amour qu'il m'a donné par la croix de façon verticale. Est-ce que déjà je lui rends tout cet amour? Est-ce que je suis capable de transmettre cet amour horizontal avec mes frères, mes sœurs, mais aussi est-ce que je suis capable de bénir mes ennemis? Est-ce que je suis capable de servir le plus petit et le plus grand? Est-ce que j'accepte que Dieu continue à changer mon cœur pour ce Dieu qui est si beau, si merveilleux? Seigneur mon Dieu, continue ton œuvre en chacun de nous parce que ce que tu as commencé, tu le termines toujours. Que nous soyons continuellement transformés par la puissance de ton amour, par ta bonté et ta compassion. Que nous ne soyons pas indifférents aux pauvres, aux personnes âgées qui sont abandonnées par leurs enfants et qui restent seules des fois dans leur maison, à la personne qui est sans abri et qui sent mauvais et qui vient à côté de nous et dont nous nous éloignons. Ne soyons pas indifférents à la femme qui est maltraitée, battue. Ne soyons pas indifférents aux enfants qui sont maltraités, pas seulement physiquement, mais aussi par manque d'amour. Continue ton œuvre, Seigneur, parce que tu as besoin de nous pour faire la révolution intérieure des cœurs. Soyez bénis.